franceinter.fr.
Aujourd'hui donc lundi 24 août 2015, c'est vrai, 10e saison pour La Tête au Carré qui démarre aujourd'hui. Grand plaisir de vous retrouver pour poursuivre ensemble tous les jours l'exploration de l'actualité scientifique. Une année 2015 qui sera marquée, vous le savez, par la conférence climatique de Paris que nous allons suivre jusqu'à sa clôture en décembre prochain. On s'était quitté juste avant l'été avec une émission sur les mécanismes du cerveau en vacances et c'est également avec notre organe de la pensée que nous reprenons les dossiers de La Tête au Carré pour aborder cette voici les mythes, les réalités et les manipulations de notre cerveau, parce que beaucoup d'histoires circulent sur nos capacités cérébrales, parfois assez extraordinaires. Et avec nos invités, nous allons démêler le vrai du faux, et puis nous verrons s'il est vraiment possible de manipuler notre cerveau directement ou à distance. J'attends vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. La Une de la Science revient également en ce début de saison avec son rédacteur en chef Axel Villard. Monsieur Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. C'est justement la question climatique qui est à la une aujourd'hui.
Mais oui, on se retrouve après un été très très chaud pour la planète. Selon l'Agence océanique et atmosphérique américaine, le mois de juillet 2015 est le plus chaud jamais enregistré et l'année 2015 est en passe également de battre tous les records. On scrute les relevés météo dans un instant avec le climatologue Jean Jouzel et vos questions sur Twitter.
Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré qui est désormais réalisée par Stéphanie Texier, dont je salue chaleureusement l'arrivée dans l'équipe. Dossier préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec François Mercier et Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les mythes, les manipulations du cerveau, c'est donc le sujet du dossier de rentrée avec vous, Elena Pasquinelli et Christian Marandaz. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux, bienvenue. Mmh. Elena Pasquinelli, vous êtes chercheur en philosophie et sciences cognitives. Christian Marandaz, professeur en neuropsychologie. Et le cerveau, c'est vrai, on va le voir avec vous, c'est un véritable sujet de fantasme, avec des simplifications parfois assez excessives, hein, comme vous l'écrivez justement, Elena Pasquinelli, dans votre ouvrage « Mon cerveau, ce héros ». Il y a par exemple cette idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% des capacités du cerveau. Là, on est en plein neuromythe.
On est en plein neuromythe, peut-être le plus connu, peut-être le plus mystérieux dans ses origines.
Il vient d'où ce mythe, d'ailleurs, au départ?
On ne sait pas exactement.
En plus, on n'en connaît pas l'origine.
C'est vraiment très mystérieux. Quelqu'un l'attribue à Einstein.
Oui, c'est ça.
Il n'avait pas vraiment beaucoup à dire sur le cerveau, en réalité. Donc ça dit aussi des choses de comment on pique et on développe des mythes.
Oui, quand on ne sait pas, on attribue à Einstein, de toute façon, en
général. Par exemple, ça c'est une bonne stratégie.
Christian Marandaz, est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment directement manipuler notre cerveau ou est-ce que là aussi on est dans le domaine du fantasme ?
Eh bien, il y a à la fois les deux choses. Très souvent, de la part des médias, on est très souvent dans le fantasme. Mais dans les laboratoires, il y a moyen directement quand même de manipuler le cerveau si on entend par manipulation le terme scientifique, c'est-à-dire aller agir sur le cerveau, directement sur les neurones pour qu'ils produisent quelque chose. Oui. Ça, on sait le faire directement en entrant dans le crâne et en posant des électrodes ou indirectement en stimulant à partir du scalp.
Avec des résultats efficaces d'ailleurs, hein, on le voit aussi déjà.
Avec des résultats, voilà, qui existent.
Oui.
Des résultats qui existent. Sur le plan clinique, efficace, bien, ça dépend un petit peu de la pathologie. On pourra en discuter. Mais avec des résultats. Et ça, c'est la véritable manipulation au niveau expérimental.
Hein, donc, on manipule le cerveau, déjà. On peut le dire d'emblée. On va se retrouver ensemble dans un instant. Donc, avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent, comme toutes les saisons passées, sur franceinter.fr et puis sur les réseaux sociaux. Avec le mot-clé, l'attaque. Et à la Une de la Science, aujourd'hui, un été 2015 de tous les records.
Deux informations, le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, et ces sept premiers mois de l'année qui sont les plus chauds jamais enregistrés. Ça veut dire que si on continue sur la lancée d'ici à la fin de l'année, 2015 pourrait être tout simplement l'année la plus chaude jamais enregistrée, après le précédent record de l'année dernière, 2014.
Voilà, c'était un extrait du bulletin climat de vendredi dernier sur la chaîne Météo, avec à l'appui les relevés de l'Agence océanique et atmosphérique américaine qui arrive donc à 3 mois de la COP21, la conférence pour le climat. Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Mathieu Vidard, bonjour à tous et félicitations quand même pour ces 10 ans d'émission.
Ouais, c'est formidable. On est heureux de commencer cette nouvelle saison avec vous et puis bien sûr avec cette actualité climatique qui va aller crescendo jusqu'à la fin novembre pour la COP. Vous êtes vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC et bien
sûr
très impliqué dans la préparation de cette conférence. 2 années record de suite, 2014 et 2015. Les experts s'attendaient à ces résultats ou pas ?
Disons que d'abord 2014 a battu, était une année record. Ça se passe dans un contexte de réchauffement qui est de l'ordre de 1/10 de degré par décennie, donc c'était pas anormal. Oui. 2015, c'est un peu surprenant d'avoir 2 années successives qui soient des années records, et ça tient à l'émergence du phénomène El Niño. On se retrouve un peu comme sur la séquence 1997-1998. 97 était déjà une année record et 98 devient une année super record qu'on a d'ailleurs mis 15 ans à dépasser. Donc on est un peu dans ce contexte et ce n'est pas surprenant si vraiment le El Niño a ce phénomène de réchauffement d'une partie du Pacifique est déjà notable. Oui. Donc ça joue pour une partie, mais c'est par exemple, là où ça a vraiment chauffé, c'est l'Europe de l'Ouest. Hein. Donc il faut bien voir que c'est chez nous, d'ailleurs on l'a ressenti, hein, Juliette, on a quand même des souvenirs. Donc surprenant, oui, mais moi ce que je tiens toujours à... Bon, alors on va attendre la fin de l'année pour voir vers quoi on va. Ouais. Il est très possible qu'on ait vraiment une véritable année record et avec l'année suivante, dans les prochaines années, des années peut-être plus douces et on retrouvera ce climato-scepticisme en disant que le réchauffement s'est arrêté, mais on n'en est pas là encore, donc oui, 2015 devrait être de toute façon l'année la plus chaude.
Ouais. Jean Jouzel, juste un mot, on parle de météo ou on parle de climat là, en l'occurrence?
Là on parle de climat parce qu'on regarde...
Sur une échelle de temps aussi courte.
Alors ça c'est la difficulté. Quand on regarde l'ensemble des mois de juillet, oui on commence à parler de climat à partir du mois. La météo c'est quand même 5, justement l'échelle mensuelle, on ne va jamais en dessous de l'échelle mensuelle quand on parle de climat. Donc on commence à l'échelle mensuelle, bon c'est un peu juste, c'est vrai qu'il faut regarder sur des échelles de temps plus longues, si on veut vraiment regarder les moyennes annuelles par exemple.
Axel. La dernière fois qu'El Niño s'est montré c'était en 98, on l'attendait en 2014, on est sûr que 2015 ce sera l'année El Niño ?
Oui, je ne suis pas, on a des bons spécialistes de El Niño en France, des personnes comme Eric Gilliardi par exemple, mais 2016, il y avait un pronostic de 60% de chances de El Niño à la même époque à peu près, et puis là maintenant on parle de 80 chances sur 100, on verra bien, mais en tout cas déjà, au mois de juillet, cette partie de l'océan Pacifique tropical équatorial dans lequel se manifeste El Niño était déjà plus chaude que la normale, donc ça semble bien parti, Oui, on ne peut jamais parier. Effectivement, c'est 80 chances sur 100. Ça a l'air très sérieux. Et il y a quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu El Niño. Il n'y a pas de surprise. On est dans ces rythmes d'El Niño de 3 à 7 ans. Donc, ça ne serait pas anormal d'avoir El Niño cette année.
Alors, dans justement les résultats de ce bulletin climatique, il y a 2 records en fait. Il y a celui du mois de juillet et puis les 7 premiers mois de l'année. Et alors, ce qui marque vraiment beaucoup, c'est l'amplitude au fond du phénomène.
Oui, l'amplitude, c'est déjà assez important. Les 7 premiers mois de l'année sont vraiment plus chauds que 2014, il y a une différence de près de 1/10 de degré. Alors ça dépend des séries qu'on prend. Celle de la NASA, c'est plus de 1/10 de degré, un peu moins, je crois, dans celle de la NOAA. Mais effectivement, on va se retrouver s'il y a vraiment un phénomène El Niño, il faut voir, 98, il devait y avoir plus entre 1 et 2 dixièmes de degré par rapport à 97. C'est vraiment un événement exceptionnel et c'est la question qui est posée. Mais ça, pour moi, ce n'est pas très très important. C'est quand même intéressant d'avoir ce El Niño au moment de la conférence de Paris. Ça sert de piqûre de rappel.
Malheureusement, mais bon.
Oui, malheureusement.
Ça peut servir en tout cas.
De l'autre côté, je précise toujours que le phénomène de réchauffement se traduit avant tout dans l'océan. Que l'effet de serre se traduit par une chaleur supplémentaire. Il n'y a que 1% allé dans l'atmosphère, 93% dans l'océan. Et c'est l'océan qu'il faut regarder en premier lieu. Ouais. C'est là que ça se passe, élévation du niveau de la mer. Et puis aussi, à la fois à travers la dilatation de l'océan et des apports massifs des calottes glaciaires, des apports importants, 3 mm par an. C'est peut-être le premier, le principal indicateur du réchauffement.
Mauvais indicateur.
Donc année 2015, année super record. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la conférence directement à Paris en novembre?
C'est simplement une piqûre de rappel. Nous aurions été dans le cas contraire. On aurait entendu, disons, certains persifleurs nous dire que voilà, ça ne se réchauffe pas et ainsi de suite. Donc c'est plutôt anecdotique par rapport à quelques dixièmes de degrés de plus ou moins. C'est pas ça qui remet en cause le réchauffement. Le réchauffement, il faut le voir à long terme, mais certains prennent un malin plaisir à le regarder à court terme. Mais évidemment, si on le regarde à court terme, eh bien, on y voit ce que l'on y cherche. C'est bien ça le problème. Donc je crois que c'est assez... Bon, c'est une piqûre de rappel, c'est une conjonction entre cette année qui sera chaude et puis la conférence de Paris qui sera extrêmement importante. On peut le prendre pour peut-être un bon signe pour la conférence de Paris. En tout cas, c'est plutôt favorable dans l'état d'esprit des négociateurs. Mais je rappelle à chaque fois que 2013, c'est Ayan, le plus grand, jusqu'ici au moins, un des plus grands cyclones ou typhons, des dizaines de millions, de milliers de morts. Et le délégué philippin qui pleure au début de la conférence et rien ne s'est passé pendant cette conférence. Il ne faut pas non plus penser que les signaux que nous donne la nature soient suffisants pour que,
malheureusement,
disons, les chefs de gouvernement prennent les bonnes mesures.
Ouais. Et la tonalité, justement, selon vous, de cette COP21, Jean Jouzel ?
Elle est positive. Il y aura, je crois, un accord qui... disons, intégrera beaucoup des pays, mais qui risque de ne pas être assez ambitieux par rapport à l'objectif que tous ces pays affichent.
C'est ce qui revient beaucoup.
Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à long terme.
Voilà, et c'est dans 98 jours maintenant, cette conférence essentielle, et ce sera donc en France, au Bourget. Merci beaucoup Jean Jouzel d'être venu pour cette rentrée de la tête au carré. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on a retrouvé la plus vieille fleur de l'histoire de la Terre, son nom Monsequia vidali, son âge 130 millions d'années, selon les analyses fossiles réalisées par les paléobotanistes américains et européens. Cette plante aquatique à longue tige pourrait être l'une des premières plantes à fleurs et donc à fruits qui a considérablement changé notre planète en colonisant la Terre ferme. Un mini-cerveau humain, justement, puisque c'est le thème de l'émission, pour faire avancer la recherche, c'est le pari gagné par des chercheurs américains. Ce cerveau de la taille d'une gomme de crayon à papier cultivé in vitro est aussi petit que celui d'un fœtus de 5 semaines, petit mais puissant car il présente les principales régions cérébrales de nombreuses cellules et moelle épinière. Cette création pourrait aussi aider à la recherche sur les maladies neurologiques comme Alzheimer. Et puis pour finir, des nouvelles de la combinaison de Neil Armstrong qui est sauvée. C'est un appel aux dons lancé par le Musée de l'air et de l'espace de Washington qui va permettre de remettre en état le scaphandre du premier homme ayant marché sur la Lune. Un véritable succès planétaire puisque près de 650 000 euros ont été récoltés en un mois grâce aux dons des internautes. Et la photo de cette combinaison est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, les mythes et les manipulations de notre cerveau, c'est dans un instant et c'est le dossier de rentrée.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Iudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas. Je n'ai pas de rhapsodie, pas de symphonie. Au bout de mes doigts, j'entends, oui j'entends, taper les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Iudina. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maya Iudina. Accent
Maria Iudina et c'est la grande Sophie à l'instant sur France Inter.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Tous ces actes aboutissent à la face externe du cerveau, autour de la scissure de Rolando.
Je vois.
Et c'est en arrière, dans le lobe occipital, que s'élabore l'image visuelle.
Et dans la zone temporale est la sphère auditive et la mémoire auditive des mots.
Voyage au pays des mythes et des manipulations de notre cerveau cet après-midi avec mes invités. Dossier de rentrée de la tête au carré avec vous, Elena Pasquinelli. Vous êtes chercheur en philosophie et sciences cognitives et vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris. Vous avez publié Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité aux éditions Le Pommier. Puis Christian Marondas, vous êtes professeur de neuropsychologie cognitive dans un laboratoire CNRS de psychologie et neurocognition et vous menez des recherches sur la stimulation magnétique transcrânienne au CHU de Grenoble. Et vous avez publié « Peut-on manipuler notre cerveau aux grandes petites pommes du savoir hein. ?» C'est toujours aux éditions du Pommier. Les auditeurs nous rejoignent. Déjà des questions pour vous sur franceinter.fr, les messages courts sur le mot-clé « l'attaque ». Elena Pasquinelli, la meilleure façon de se connaître, c'est de connaître son cerveau. Vous avez opiné tout à l'heure.
Non, c'est une bonne manière de se connaître. C'est surtout une bonne manière de connaître les erreurs qu'on fait quand on pense se connaître. Ouais. Disons, on a tous cette curiosité de savoir, de mieux se connaître. Oui. Il n'y a rien de plus naturel, surtout que ça nous aide à manipuler les autres, connaître comment notre cerveau fonctionne. Oui. Ça nous aide à savoir comment agir avec les autres, quoi dire pour induire certaines réactions, sans penser à des grandes manipulations. Donc ça nous intéresse. Mais souvent, quand on cherche à se donner des explications sur comment on fonctionne, on se trompe. Oui. Ça peut arriver. On se trompe par rapport à ce que la science découvre au jour par jour. Donc, connaître le cerveau du point de vue du scientifique peut nous aider, du coup, à mieux nous connaître, à connaître les erreurs qu'on fait quand on cherche à s'expliquer.
Oui, mais on a besoin du scientifique, Christian Marondas, hein, pour connaître notre cerveau, parce que c'est quand même pas un organe très simple à explorer. Hein.
Absolument pas, même si les progrès sont énormes depuis que les biosciences et biotechnologies se sont développées. Mmh. Mais pour revenir sur le point précédent, moi je suis tout à fait d'accord pour dire, ayant des meilleures connaissances possibles, les plus réalistes possibles sur le cerveau, mais confondre l'esprit, soi-même et notre cerveau, on n'en est pas là. Mmh. Pour l'instant, il y a quand même un gap énorme entre les deux. Et avec une certaine sagesse, on peut se connaître soi-même en toute ignorance de cause du cerveau.
Oui. En tout cas, c'est vrai que les sciences dans ce domaine explosent. Enfin, ça va crescendo là aussi. Et dans le sillage de ces recherches, justement, on voit apparaître beaucoup d'idées qui nourrissent notre imaginaire. Il y a énormément de fantasmes autour de la boîte crânienne.
Rien de plus normal. À chaque fois que la science entre en contact, la science de labo, entre guillemets, entre en contact avec la société, c'est ça qui m'intéresse en plus. Bah, il y a aussi des fantasies qui se forment ou qui prennent corps sur le savoir scientifique, des fantasies de vieille date qui trouvent dans la science une justification ou cherchent dans la science une justification. D'autres fois, c'est la science qui d'emblée crée ces mythes et on s'y attache et on a du mal à les lâcher. Je vous fais un exemple parce que je l'aime beaucoup, c'est le mythe de l'effet Mozart. Ah, et oui, là, ça vient direct de la science. 93, on a un bel article qui paraît sur un journal très sérieux, Nature, et qui dit que suite à des expériences qu'on pourra éventuellement discuter, on a montré que après avoir écouté un morceau de Mozart comparé à un autre morceau de musique ou à rien du tout, les personnes qui avaient immédiatement avant passé à des parties d'un test d'intelligence, de QI, ils s'améliorent après l'écoute de Mozart. Or, si 10 minutes de Mozart nous font devenir plus intelligents, c'est normal que ça nous intéresse. Effectivement, ça suscite un intérêt immédiat. Mais malheureusement, cet intérêt dépasse rapidement la communauté scientifique, il déborde dans les médias et on se retrouve aujourd'hui avec maintes CD, DVD, actions pour nous rendre plus intelligents avec la musique.
On nous vend même des bananes labellisées effet Mozart.
Et là, c'est la chose la
on
plus amusante.
Des fruits et des légumes.
Exactement. Qui ne sont pas plus intelligents.
Non, elles mais qui sont meilleures. Elles sont meilleures. C'est déjà pas si mal.
Voilà, c'est déjà pas si mal. Donc, il y a le saké, il y a les vaches Mozart, les Mozart,
c'est
si
vrai.
On
a tout. On a eu les tomates.
On a tout. Et surtout, on les a une fois que cette nouvelle intéressante est démentie.
Oui.
Comme ça arrive très souvent. Oui. En science, on a un résultat on le met à
la pointe. Ce n'est pas reproduit.
Ce n'est pas reproduit. Les scientifiques s'y arrangent et disent, bon, d'accord, bah, écoutez, hein, c'est un résultat, mais il n'est pas réel.
Mais ça,
ce n'est pas un effet réel.
Le public ne l'entend pas.
Le public ne l'entend pas et voilà naissance d'un mythe.
Oui, Christian Marandaz.
Alors, sur la naissance d'un mythe, et comprendre ce qu'est une expérience, que ça donne, c'est tout un débat épistémologique. C'est-à-dire, la science est très difficile. Hein. Il faut être un peu chercheur pour comprendre ce qu'est un résultat. Et en général, un résultat, c'est toujours ténu, mais il y a les données statistiques qui montrent qu'il existe. Il faut l'interpréter comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'intérêt sur le cerveau. C'est pas simplement le grand public qui s'intéresse à ça. C'est vraiment notre société. On sait que les leaders du point de vue culturel comme au point de vue technologique et sur la santé, les prochains leaders, c'est ceux qui vont maîtriser le cerveau. Donc il y a un enjeu, tout le monde s'y intéresse, et il y a un enjeu énorme, à la fois au niveau scientifique, financier.
Et on voit les grandes entreprises américaines, les plus puissantes, hein, justement, qui investissent massivement de l'argent dans ce domaine.
Oui. Et si, je sais pas si on aborde ce point-là maintenant, mais c'est vraiment, je trouve, ce qui est très étonnant. Si on regarde du côté de la physique des années 40-50, elle a énormément progressé parce qu'on a mis les cerveaux dessus et l'argent dessus. Et ça donnait quoi? Ben, les nanotechnologies, peut-être qu'on n'attendait pas spécialement et qui bouleversent notre vie et qui vont continuer à la bouleverser.
C'est un grenoblois qui parle en plus, hein.
Voilà. Et, bien, pour ce qui concerne les sens du cerveau, il en est de même. On va mettre un argent fou là-dessus, et ce qu'il y a de au niveau européen, au niveau international, aux États-Unis et tout, mais ce qu'il y a de particulier, c'est, par rapport à la physique précédemment, c'est que maintenant, c'est des particuliers, des entreprises, le fameux GAFA qui met l'argent, et eux, ils vont pas le faire simplement pour faire avancer la science, la faire avancer, mais ils vont le faire pour des raisons très économiques pour eux-mêmes. Et ce qui veut dire que quand on met les cerveaux et l'argent quelque part, on sait qu'on va avoir des bouleversements considérables sur les connaissances.
Il y a
on
ce Human Brain Project, voilà, par exemple, dont la finalité, vous le rappelez, est d'élaborer un modèle artificiel du cerveau humain avant la fin du siècle.
Oui.
Donc c'est vraiment de pouvoir mettre le cerveau tel une machine, en tout cas un modèle.
Un modèle.
Pour bien comprendre.
Ouais, voilà, un modèle, une simulation.
Ouais. Ouais. On le disait dans les brefs, tout à l'heure, des Américains sont parvenus à créer en laboratoire un mini-cerveau dont les structures sont équivalentes à un fœtus de 5 semaines. C'est une avancée importante, selon vous, Elena Pasquinelli?
Mais j'aurais du mal à l'apprécier, hein, ce moment. C'est sûrement un bon modèle, hein, comme Brain Project. Toutes ces études servent de modèle. Après, on fantasme beaucoup sur ce qu'elles peuvent représenter en termes de, on a créé un cerveau humain, un petit cerveau dans la boîte, qu'est-ce qu'il va faire? Et on va probablement se raconter aussi des histoires de science-fiction
sortira de la boîte, etc. Mais en tout cas, en disant qu'il pourrait nous aider à comprendre les maladies neurodégénératives.
Ça, je pense que c'est exactement le but de ce genre de ce genre d'études, servir de modèle effectivement pour la croissance neurale,
la migration, la croissance, la différenciation. Non, moi je pense que c'est très important. Ça veut pas dire qu'on va tout comprendre à la sortie de tout ça, mais par rapport, justement, on a parlé de Human Brain Project, donc c'est vraiment simuler sur des réseaux artificiels un cerveau artificiel. Là, on est en train de le produire.
Oui.
Alors, mais comme il se produit tout seul, on contrôle pas les mécanismes. Donc on sera toujours surpris, parce que au bout de 4-5 interactions, l'être humain, il est perdu, hein, pour comprendre comment ça marche. Mais enfin, d'y arriver, ça me semble important.
Une question de Michel sur Twitter. Quand je fais en sorte, dit-il, qu'une personne change d'avis, est-ce que j'ai manipulé son cerveau? Alors, Christian Marandaz.
Au point de vue expérimental, scientifique, la réponse est non. Elle a changé d'avis pour différentes raisons. Si le cerveau se mettait à se modifier sous n'importe quelle injonction, sous n'importe quelle manipulation, mais nous serions extrêmement fragiles. Par définition, le cerveau, il est là pour résister et s'adapter. Mais d'abord, résister au changement du milieu et s'adapter. Donc, c'est pas une simple injonction qui va modifier le cerveau. Bon, ça modifiait la réponse de la personne, de son comportement.
On parlera de la plasticité avec vous, justement, tout à l'heure, qui est là vraiment la modification et cette souplesse du cerveau. On peut, Elena Pasquinelli, influencer autrui ou pas?
Oui, on peut prendre influencer sous un sens plus large que celui, disons, du neurobiologiste au sens étroit, et on peut penser à toutes nos interactions comme des manières d'influencer les cerveaux des autres. Enseigner, c'est une manière d'influencer, de manipuler les cerveaux des autres en présentant des connaissances qui seront absorbées ou pas, mais qui vont modifier effectivement le comportement. Et pour modifier le comportement, il faut passer par le cerveau, d'où l'intérêt du cerveau. Il y a aussi toute une tradition qui montre l'utilité de ces études sur le cerveau et de se connaître en connaissant les sciences. Toutes les études qui ont été menées sur la mémoire, par exemple, où on a montré que dans des cas de témoignages, on sait combien ils sont utilisés dans des tribunaux, il est facile, entre guillemets, au sens où un pourcentage de personnes auxquelles on pose des questions d'une certaine manière ou montre certaines images peuvent effectivement fabriquer des faux souvenirs sous l'influence de la manière de poser la question, du contexte, etc. On croit notre mémoire comme étant beaucoup plus fidèle, un enregistrement beaucoup plus fidèle des faits de ce qu'elle n'est pas. Ouais. La science nous montre ça et nous aide donc, par exemple, à changer l'attitude dans un tribunal ou dans l'écoute d'un témoignage. Un impact sociétal qui n'est pas à négliger.
On en reparlera aussi avec vous avec d'autres exemples qui ont pu nous marquer et dont on pense justement qu'ils sont durablement inscrits dans notre cerveau. Mais les erreurs aussi sont assez présentes. Il y a beaucoup de messages et de questions pour vous. Je vous les transmets dans un instant pour poursuivre ensemble ce dossier cerveau. Dans la tête au carré, juste après Mélodie Gardot, Preacher Man. Passez un très bon après-midi avec nous sur France Inter. Preacher Man, go tell me where his body lies. Sit it down by the living heart child. Him there to die. One by one we tumble, one by one we fall. If I had a solution, oh honey, I would fix us all. 'Cause I believe in the world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man pride. I have seen the darkness, Lord knows I've seen the light. Don't recall a lot saying there's a difference if you're black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man gone. Sherman, la voix de Mélodie Gardot sur France Inter.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Voilà, le neurolaser ou les neuromythes. Mettez le neuro à toutes les sauces, comme vous le souhaitez. Nous parlons du cerveau avec Elena Pasquinelli et Christian Marandaz. Peut-on manipuler notre cerveau au pommier, Christian Marandaz? Et mon cerveau, ce héros, mythe et réalité pour vous, Elena Pasquinelli. Christophe, sur Twitter, demande ceci. Est-ce qu'il suffit de créer un cerveau pour faire émerger une conscience, Christian Marandaz, hein, puisqu'on parlait de ce mini-cerveau, là, tout à l'heure, dans la boîte de Pétri, quasiment?
En tout cas, on a du mal à imaginer une conscience sans cerveau.
Oui.
Est-ce que à partir d'un cerveau, on le saura peut-être, ouais, justement avec les fameuses simulations, si on arrive au cerveau virtuel, si une conscience existe.
Ouais.
Mais on a quand même une idée de peut-être comment quel pourrait être le support cérébral de la conscience, et avec l'idée qu'il faut une certaine synchronicité dans les activités neuronales dans différentes parties du cerveau. Alors, est-ce que c'est simplement le support qui médiatise la conscience, ou est-ce que c'est plus que ça? Justement, les travaux devraient pouvoir
donner
peut-être
des réponses.
Répondre. En tout cas, je ne sais pas, Elena, si tu es d'accord, mais...
Elena Pasquinelli?
Bien sûr, non, c'est une question très fascinante et c'est une question très compliquée, parce que sur conscience aussi, on a des définitions tellement différentes et des attentes différentes, et on l'entend de manière différente en laboratoire quand on l'étudie en scientifique ou en neuroscientifique ou un grand public. Et un grand public, on s'attend peut-être aussi à quelque chose de plus complexe de ce qui se retrouvera après en laboratoire ou dans des simulations, ou effectivement une question de synchronicité ou d'attention portée sur certains stimuli et donc d'activation des aires responsables de l'attention est une définition suffisante. Ça nous illustre cette difficulté de faire parler les sciences et les scientifiques avec les grands publics.
En tout cas,
ça, c'est votre métier.
Oui, mais vous aussi, parce que vous êtes beaucoup amusé en écrivant ce livre, justement, en retrouvant ces histoires et ces mythes incroyables. Autour du cerveau, le pouvoir mental de déplacer des objets, par exemple. Il y a eu des vraies recherches scientifiques qui ont été menées sur la question. C'était pris très au sérieux. Il y a une Italienne d'ailleurs qui est dans cette histoire.
Et Zappia Palladi, une Napolitaine, naturellement.
Qu'est-ce qu'elle faisait alors, cette Napolitaine?
Elle faisait un peu tout. Elle faisait bouger les tables. Elle donnait l'impression aux personnes qui étaient assises à la table avec elle, c'était les tables mouvantes, on est dans cette période de spiritisme, que des mains fantômes les touchaient, qu'on leur tirait les cheveux d'apparition, etc. Sauf qu'à cette table, autour de Zappia Palladi, quand elle est arrivée à Paris, n'étaient pas assis des gens comme vous, comme moi, mais étaient assis Pierre, Marie Curie et d'autres.
Mais
donc
oui.
c'était
un vrai sujet d'observation,
un
en tout
vrai
cas.
Sujet d'exploration.
Alors qu'est-ce qu'on a découvert sur ces pouvoirs?
Il y a eu un rapport qui a été fait par ce comité scientifique qui s'est mobilisé pour étudier ces phénomènes. Ils n'ont pas réussi tous à les expliquer, donc un bon scientifique, ils se sont dit qu'il fallait poursuivre les études. Mais ils ont en même temps découvert pas mal de manipulations, des vraies, pas du cerveau, mais des manipulations très très physiques que Zappia Palladi avait vraiment des mains. Là, c'était la main à la patte. Et Zappia Palladi utilisait même des cheveux pour faire bouger des feuilles. Ah, elle était inventive, elle était une bonne Italienne.
C'était une magicienne, quoi.
C'était une magicienne.
Tout simplement.
Aujourd'hui, les magiciens sont des grands alliés des sciences cognitives. Il y en a pas mal qui se mobilisent, qui utilisent en le déclarant, les découvertes des sciences cognitives. Et il y en a qui aident aussi à en faire, sur l'attention, sur la mémoire, à mettre en évidence des mécanismes. Donc c'est une bonne alliance. Il suffit qu'elle soit claire.
Et c'est le travail de la science de nous dire la vérité tant qu'à faire. Christian Marandaz, est-ce que notre cerveau peut vraiment nous permettre de faire plusieurs choses à la fois ou pas?
Alors, quand on regarde le réseau de neurones que constitue un cerveau, ce qui est frappant, c'est que ce réseau de neurones, c'est un réseau massivement parallèle. C'est-à-dire que les neurones travaillent massivement parallèle. Il y a bien de la sériation, mais massivement parallèle. Mais l'être humain, eh bien, il n'est pas construit pour faire du parallélisme. Donc, on peut faire plusieurs tâches à la fois, mais on va réussir la bonne tâche qu'une seule fois, enfin la vraie tâche qu'une seule fois. Non, on n'est vraiment pas construit pour faire plusieurs tâches à la fois. C'est possible.
Ces tâches sont automatiques?
Non, c'est possible dans la mesure où on a automatisé certaines tâches.
C'est ça.
Typiquement, la conduite automobile, où tous les apprentissages sont sur le moteur comme ça. Pourquoi? Parce que là, justement, l'apprentissage au départ était très cortical et il va devenir subcortical. corticale. Mmh. Donc, il va laisser la partie plus liée à l'intelligence, à l'attention, libre. Mmh.
Donc ça, ça fait partie aussi des idées reçues, hein, Elena Pasquinelli, que le cerveau serait multitâche. Hein.
Exactement, et des idées reçues que la science aide à remettre en discussion avec des conséquences importantes sur la conduite automobile, notamment où il y a eu même en France une considération importante des études en sciences cognitives sur l'attention. Non, nous ne sommes pas multitâches au sens où on l'entend tout le temps, donc on n'est pas capable effectivement de conduire et de parler au téléphone, même les mains libres, les mains n'ont rien à voir, c'est vraiment le cerveau qui passe rapidement d'une tâche à l'autre. Malheureusement, si un lapin passe devant vous en même temps que vous êtes sur la tâche téléphone, eh bien ça devient très compliqué, vous tuez le lapin.
Donc c'est à cause de gens comme vous qu'on va nous enlever le kit main libre au volant de la voiture.
J'espère.
Parce que vous avez montré qu'on ne pouvait pas faire deux choses à la fois.
Bah, je ne l'ai pas montré, mais j'espère. Mon boulot, c'est celui de faire connaître ce type de connaissances et donc d'aider à prendre des décisions un peu plus averties par rapport à nos limites, à prendre en compte nos limites.
Allez, un extrait du film Lucie de Luc Besson.
On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui.
Professeur Norman, je m'appelle Lucie. J'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie.
Je vous remercie.
J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante.
Depuis quand tu sais écrire le chinois ?
Depuis une heure.
Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%?
Je n'en ai aucune idée.
Ah, on aime beaucoup, hein.
J'aime beaucoup. Morgan Freeman qui dit « Je n'en ai aucune idée », c'est vraiment
avec ses 28%,
très puissant.
28%, vous rendez compte qu'on peut faire déjà apprendre
exactement,
le chinois en une heure.
Le chinois en une heure.
C'est extraordinaire, voilà. Alors, j'aimerais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore?
J'aimerais bien,
de 10%.
Mais malheureusement,
on utilise 100%
encore une
notre
fois,
cerveau.
Une mauvaise nouvelle, hein, c'est comme le kit main libre, non
c'est
on
ça.
L'utilise tout.
Tous nos rêves s'effondrent à cause de vous.
Tout, hein. Voilà. Ouais. Non, on l'utilise tout. C'est justement un rêve. Hein. C'est justement l'une des caractéristiques de ces mythes sur les cerveaux. Souvent, c'est des mythes optimistes. Hein. Ouais. Il pourrait paraître un mythe pessimiste parce qu'on est limité, on n'utilise que les 10% du cerveau. Mais ça ouvre justement cette possibilité. J'ai fait des bêtises aujourd'hui, mais j'ai utilisé seulement le 10% de mon cerveau. Si je me mettais à la musique de Mozart, par exemple, ou à d'autres choses, je pourrais l'utiliser un peu plus et donc apprendre plus vite. Donc, une raison, entre guillemets, psychologique de ce mythe, cette composante optimiste qu'il a. D'autres raisons ont été cherchées un peu partout. Einstein, on l'avait dit au début, qui aurait dit « j'utilise seulement 10% de mon cerveau ». On a cherché dans ses archives, on n'a rien trouvé. Einstein reste un grand physicien. Donc, il n'est pas nécessairement un vrai expert en neurosciences. Ça nous dit autre chose, c'est-à-dire que les experts, on les prend pour des experts un peu tout. Ouais. Autre intérêt des neuromythes. On a cherché aussi dans l'histoire des neurosciences, quand on cherchait la correspondance et la part de neurones dans le cerveau par rapport à d'autres composantes. Ou quand on pensait qu'il y avait des zones qui n'étaient pas très utile. On a découvert après que c'était effectivement les zones les plus importantes pour la conscience, pour l'attention, pour la mémoire, pour les raisonnements. Donc, on a quelque chose à faire avec.
Voilà. Donc c'est du pipeau, hein, Christian Marandaz. Parce qu'on utilise en fait quasiment 100% de notre cerveau.
Notre cerveau n'est jamais au repos. Donc
même en vacances, hein, on le disait avant de partir cet été.
Même en vacances, puis même à ce qu'on appelle l'état de repos, eh bien, il ne l'est pas. Il y a toute une activité. Ce que j'aurais à dire quand même, c'est que ces 10%, 20%, ça n'a pas grand sens dans la mesure où ce qui compte, c'est peut-être pas le nombre en lui-même, parce que vous avez des modèles de ce réseau de neurones où il n'y a pas beaucoup de neurones, mais c'est la façon dont on discute entre les neurones. Et c'est plus une histoire d'organisation, de plasticité à l'intérieur du système qui est important plutôt que le nombre. Le nombre, pourquoi est-ce qu'on attend, admettons 100 milliards ou un peu plus ou un peu moins? Ça, c'est pas très important. Là, certainement que, comme toujours, l'évolution, elle a ajouté des couches et puis elle les a pas enlevées. Mais ce qui compte, c'est vraiment comment tout ça travaille. On voit bien que des personnes qui ont demi-cerveau, des fois un quart de cerveau, qui arrivent à faire des choses quasiment adaptées, quoi.
La plasticité, encore une fois de plus. Ouais, on va en parler avec vous dans un instant parce que vous abordez longuement cette révolution dans la compréhension du cerveau. On le dira avec vous. Et puis, la manipulation aussi, c'est le thème de votre ouvrage. On en discute dans un instant. Avec d'autres messages qui arrivent sur franceinter.fr. Ghost Town, The Specials sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Allez, dernier quart d'heure avec Elena Pasquinelli et Christian Marandaz pour parler de notre cerveau. Christian Marandaz, une question de Viron. Est-ce que l'imagerie médicale peut prédire le comportement humain aujourd'hui ?
Oui, à la fois, oui et non. Oui, lorsqu'on voit des activités au niveau cérébral, il y a tout un secteur de recherche qui essaye de savoir quel est le comportement qui est caché derrière cette activité cérébrale. Pour l'instant, il y a des... Donc, ça veut dire, vous ne savez pas ce qu'a fait la personne, vous avez simplement son imagerie cérébrale fonctionnelle, hein, que ce soit fonctionnelle. Et il y a des petites études dans les cas simples qui arrivent à dire « Ah, dans ce cas-là, c'était une personne qui devait regarder un film » ou « C'était une personne qui devait faire tel mouvement », des choses comme ça. Donc, il y a deux, trois tentatives qui sont assez favorables.
Ouais, Elena Pasquinelli ?
Il y a aussi des dangers dans la rétro-ingénierie parce que c'est un corps, une partie des neurosciences qui justement, n'est pas très exploré. On fait typiquement l'inverse, hein. On donne des tâches et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a donné des tâches à la personne en question. Donc ça, on sait faire. La rétro-ingénierie, l'ingénierie inverse, à partir de ça, on sait faire un tout petit peu moins. Ouais. Il y a eu malheureusement aussi des exploitations à propos des manipulations du cerveau qui n'ont pas beaucoup plu à la communauté scientifique en général. En 2007, par exemple, quelqu'un a cherché à publier un article sur le Times. Il l'a fait, pas sur un journal scientifique, où il décrivait qu'est-ce qui se passe quand on met dans la machine, en imagerie cérébrale, des personnes qui n'ont pas encore décidé pour qui voter et qu'on leur présente des images de candidats potentiels des élections américaines. Et par là, on cherche à prévoir qu'est-ce qu'ils vont voter. Ben, c'était un échec total, très très critiqué justement parce qu'il est très difficile de dire « Ah, l'amygdale s'active, donc la personne a peur de Barack Obama ». Chose qui était justement dans cet article. Donc, beaucoup de prudence par rapport à ces capacités de lire dans l'esprit d'autrui à travers l'imagerie cérébrale.
Alors justement, Christian Marandaz, quelles sont aujourd'hui les techniques qui permettent vraiment de manipuler, au bon sens aussi, notre cerveau ?
Si l'on s'en tient au sens strict de manipuler, ce sont toutes les techniques qui vont aller agir directement sur le cerveau. Donc ce sont les techniques où on va soit introduire une électrode au niveau du cerveau, une ou plusieurs électrodes, et on va activer ces électrodes de manière électrique. Le courant électrique va activer le réseau de neurones qui est connecté avec ces électrodes. Tout le monde connaît ce genre de technique, notamment dans le cas du Parkinson, que fait l'électrode qui est placée à certains endroits, eh bien, elle va simplement inhiber les symptômes moteurs disqualifiants. Ça, c'est invasif, c'est pour des raisons médicales, mais on peut maintenant, depuis une dizaine d'années, aller stimuler ces réseaux de neurones en superficiel grâce à la stimulation magnétique transcrânienne.
Ça, c'est votre thématique de recherche, d'ailleurs. Voilà, on travaille là-dessus pour les troubles psychiatriques pharmaco-résistants.
Quand c'est appliqué à la clinique, oui. Je veux dire deux secondes sur le principe. C'est le principe de l'induction électromagnétique de Faraday. Si vous avez deux bobines qui contiennent des fils de cuivre, si une bobine est alimentée de manière électrique, elle va émettre un champ électromagnétique perpendiculaire à elle, et l'autre bobine qui est en face, qui n'avait pas l'activité électrique, va à ce moment-là en avoir une. Mm-hmm. C'est-à-dire la première bobine va induire une activité électrique dans l'autre mm-hmm. bobine grâce au champ électromagnétique. Et bien dans la stimulation magnétique transcrânienne, c'est pareil. Seulement mm-hmm. la deuxième bobine n'existe pas. La deuxième bobine, c'est notre cerveau. C'est le tissu cérébral. Donc si vous placez une bobine à un certain endroit du scalp, eh bien on peut espérer activer les neurones qui sont en dessous. Par exemple, si vous êtes... Si je suis trop long, vous me le dites.
Non, on vous écoute par exemple, avec beaucoup d'intérêt.
Par exemple, si vous êtes en train de lire quelque chose, un livre, ou faire une tâche comme ça visuelle, si on vous envoie une stimulation magnétique à l'arrière du cerveau, sous le cortex occipital, qui est lié mmh. à la vision, eh bien, 100 millisecondes après ce choc, vous n'êtes plus capable de lire ce que vous étiez en train de lire. Ça ne va pas durer longtemps. Mais donc, c'est pourquoi ? Parce qu'on a activé, on a fait décharger une neurone qui est en train de traiter ce que vous étiez en train de lire. Mmh. Donc, avec cette technique, on peut apprendre beaucoup de choses sur le plan fonctionnel, à quoi sert tel ou tel air. Mais si on répète, parce que une simulation magnétique, c'est une milliseconde, et la durée de vie de tout ça, c'est une ou deux secondes. Mais si vous répétez sans arrêt, plusieurs fois par jour, mmh. eh bien, vous allez faire de la neuromodulation. C'est-à-dire que, selon ce que vous allez faire, eh bien, toute une base cérébrale va être plutôt inhibée ou plutôt suractivée. Et c'est l'espoir en clinique. Par exemple, vous avez parlé de la dépression pharmacorésistante. Eh bien, la dépression, on peut l'avoir comme un certain déficit au niveau du cortex frontal, dans une partie, notamment mmh. gauche, voilà. Donc, une des solutions serait peut-être, puisque le médicament ne marche plus, ouais. d'aller réactiver cette partie.
C'est ça.
Pour rééquilibrer.
Avec cette stimulation magnétique voilà, transcrânienne.
Qu'il faut faire chaque jour. Ouais. Et pendant un certain nombre ouais. de jours.
C'est pas autorisé en France encore ?
Alors, c'est autorisé aux États-Unis, c'est autorisé au Canada, aux États-Unis, mm-hmm. dans d'autres pays. En Europe, ça ne l'est encore pas. D'accord. Et les recherches sont en cours.
Une question de Loïc. Est-ce que la méditation, la prière peuvent modifier le cerveau ? Alors, Christian Marandaz, est-ce que vous en parlez,
hein, l'hypnose, la méditation. Voilà, tout apprentissage modifie le cerveau. Donc la méditation, c'est un sacré apprentissage. Apprentissage de quoi ? On a du mal, des fois, à bien le définir. Mais les vrais méditants, les méditants experts, ont appris pendant très longtemps. Ouais. Alors c'est sûr qu'après, on voit des modifications au niveau cérébral.
Ils sont bien étudiés d'ailleurs par les scientifiques aujourd'hui, les méditants. Hein. Mathieu Ricard s'est prêté justement à des recherches très intéressantes.
C'est très intéressant. Il y a un effet de mode quand même, hein, parce que c'est très difficile de faire de véritables expériences, parce que si on veut, il faut des groupes contrôles, et vous allez quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, vous allez lui mettre qui comme groupe contrôle. Mais ce qui était intéressant dans une des recherches qu'a fait Mathieu Ricard, justement, c'était qu'en plus, on lui demandait non seulement on regardait son activité cérébrale, mais d'agir sur son activité cérébrale. Oui. Donc là, on est dans le neurofeedback. Et neurofeedback, c'est quelque chose de très important et on s'aperçoit que, bon, contre le hasard et malgré le bruit de l'imageur, il arrivait à contrôler, à modifier un peu l'activité de certaines zones cérébrales qui étaient liées soit plus à l'empathie, soit plus à la compassion, etc. Ouais.
Et c'était costaud parce qu'on lui demandait justement dans sa méditation de penser à l'empathie ou à la compassion. Il faut être très très doué pour ça. Un mot sur le rapport... homme-machine, cerveau-machine aussi.
Mais justement, c'est très important. Dans le neurofeedback, le sujet va apprendre à essayer de contrôler toute une activité cérébrale qu'il ne contrôle pas. Et l'idée dans le cerveau-machine, c'est, je suis capable d'aller contrôler une partie de mon activité cérébrale. Dans ce cas-là, est-ce que l'ingénieur peut utiliser cette activité cérébrale pour en faire une commande machine ? C'est ce que l'on voit avec les prothèses, avec toutes les interfaces cerveau-machine que l'on connaît. Mais à mon avis, c'est le premier pas pour aller plus loin, pour aller faire du cerveau-cerveau. Et on a une première expérience, ça va peut-être être trop long à expliquer ici, mais on a une première expérience qui est sortie de l'Université de Washington l'année dernière, où on s'aperçoit qu'on peut faire communiquer comme ça, à leur insu, quelque part, deux cerveaux. Ouais. Quelqu'un qui va imaginer appuyer sur un bouton pour éteindre une bombe ou éteindre un missile, mais il va simplement imaginer, vouloir le faire. Ouais. Et c'est un autre qui est à plusieurs kilomètres qui va exécuter
faudrait expliquer comment exactement.
C'est un bel exemple de manipulation quand même là. C'est hein, direct. Hein.
Au niveau scientifique.
D'un cerveau sur un autre.
Ouais, et au niveau scientifique, via des machines. Et ce qui va être très important, c'est que ces machines, eh bien, maintenant, ça demande des artifices techniques très lourds. Avec GAFA et avec des progrès techniques, dans peu de temps, ce ne sera absolument pas lourd. Et là, il y aura une question d'éthique à se poser.
Justement, Elena Pasquinelli, les neurosciences et la société, là, on est dans des vraies problématiques éthiques.
Ouvre des questions éthiques. Autant elles sont fascinantes.
Parce qu'il y a une récupération de ces neurosciences.
Moi, j'en suis fascinée, je ne peux pas nier. Et autant elles sont fascinantes, autant le contact entre la science et la société ouvre des questions d'utilisation. Là, autant la science, elle est libre, elle doit être libre de faire ses recherches dans toutes les directions qui s'ouvrent à elle, autant le contact avec la société peut être difficile. Il faut avoir une intelligence. Donc, même avec le cerveau, ça ne change pas par rapport à d'autres aspects des sciences, il faut avoir une intelligence d'utilisation et chercher à comprendre, aller un peu au-delà, peut-être aussi des news, et se doter d'une capacité de lecture. Votre émission le fait, c'est une émission qui aide à comprendre, qui donne des clés, l'école aussi, l'éducation en général peut être ce lieu pour donner des clés, pour décrypter, anticiper, être préparé à bien lire qu'est-ce qu'il y a derrière une découverte scientifique.
Et quel choix on fait Comment on veut utiliser ces outils, Christian Marandat ?
Oui, absolument. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais il y a en plus une question au niveau de la société. Les recherches dans le domaine vont beaucoup plus vite, peut-être, que la réflexion au niveau éthique par des gens qui sont capables de réfléchir à cette éthique. Il y a un problème de neuroéthique, de neurosécurité qui va arriver très vite. À mon avis, ces réflexions-là sont en retard sur la science.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Peut-on manipuler notre cerveau ? Christian Marandaz, c'est au Pommier dans la collection Les Grandes Petites Pommes du Savoir. Et puis chez le même éditeur, Elena Pasquinelli, Mon cerveau, ce héros, mythe et réalité. Vous avez publié tous les deux ces ouvrages au mois de mai. Merci beaucoup d'être venu pour cette rentrée qui démarre bien grâce à vous sur France Inter. Saison 2 pour Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Exactement.
Bonjour Fabrice.
Bonjour cher Mathieu Villard.
C'est reparti pour une saison pour vous aussi.
Et bien c'est reparti avec la première émission qui va évoquer une guerre des chefs en 2012 entre Copé et Fillon. Souvenez-vous, tous les deux se sont déclarés vainqueurs de l'élection pour la présidence de l'UMP, évidemment.
Rocambolesque.
Il y avait un gros problème. Nous en parlerons avec le journaliste et présentateur de France 2, Jean-Baptiste Marteau, auteur avec Néla Latrousse du livre habilement intitulé « Balle tragique à l'UMP ».
Allez, filez dans votre studio, on vous retrouve après les infos. Merci Fabrice, à tout à l'heure.